Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, mes amis, je suis très content d'être ici avec vous. Et j'espère que vous m'excuserez si mon accent n'est pas exactement ce qu'il faut. Malgré le fait que j'étais élevé en partie dans une province voisine avec un nom français d'ailleurs, c'est-à-dire le Vermont, et que j'habite maintenant dans une province qui était sous le drapeau des Bourbons au XVIIe siècle, c'est-à-dire le Texas, j'étais obligé d'apprendre mon français outre-mer. Je sais que vous vous occupez de la situation économique et de la fiscalité de cette province, dont mes connaissances sont maigres. Donc, je vais vous parler des thèmes un peu plus larges, et peut-être un peu plus abstraits, qui me préoccupent depuis la grande crise, il y a 6 ou 7 ans. J'espère quand même que ces thèmes vous auraient quelque signification, quelque importance. Commençons par un petit souvenir d'une époque plus heureuse, l'âge de la croissance économique, que nous vivions entre approximativement les années 1950 jusqu'à l'an 2000. Et il y avait, je crois, dans cette époque, deux grandes phases. La croissance équilibrée entre 1950 et 1970, qui était basé surtout sur l'augmentation des salaires et sur l'augmentation de la productivité, qui allait en phase l'une avec l'autre. Et ensuite, après une décennie de troubles, ici et ailleurs d'ailleurs, je me souviens très bien d'être venu à Montréal en 1970. Une croissance déséquilibrée des années 1980 jusqu'à l'an 2000. Une croissance basée sur la finance, sur la valeur de la monnaie à l'extérieur, sur le pétrole, surtout ici au Canada, et sur les dettes, surtout aux États-Unis. C'était une phase où les inégalités augmentaient, telles que dans la première phase, les inégalités n'augmentaient pas, et même diminuer de façon matérielle. C'était une phase où la position des travailleurs s'est affaiblie. Mais quand même, c'était une certaine manière de la croissance. Et je crois qu'on peut dire que pour la plupart de la population, c'était possible d'accepter cette deuxième situation, cette deuxième phase, à cause, par exemple, d'un taux d'inflation très faible, une certaine stabilité dans les prix, et à cause aussi des biens de consommation provenant de plus en plus de l'étranger, à très bas prix. Ah, la Chine, comme disait Lassalle à un certain moment. Donc, la disparition d'une croissance même déséquilibrée peut paraître quelque chose de très grave. Et je crois, en effet, que c'est la situation actuelle. Et pour considérer les conséquences de cette situation, je propose que nous songions à la situation antérieure, à la situation avant cette époque de croissance, à la situation des années 30 et des années 20, et même de la fin du 19e siècle. C'était un âge des incertitudes. Dans le domaine politique mondial, il y avait le fascisme, le stalinisme, la guerre totale et la démocratie inachevée. Il n'y avait pas de protection sociale pour les travailleurs, ni salaire minimum, ni de sécurité sociale, ni d'assurance santé. Il n'y avait non plus ni les comptes économiques nationaux, ni un taux officiel du chômage, ni de la gestion macroéconomique. Les inégalités de cette époque furent absolues entre la richesse et la misère. Et quelle était la suite, la réaction, la réponse sociale et politique dans nos pays, dans l'époque de Mackenzie King et de Franklin Roosevelt. C'était l'organisation syndicale, c'était la grève, la lutte, les combats pour deux objectifs, surtout, soit les droits des travailleurs, soit la création des institutions sociales pour réaliser la promesse de la dignité et des droits des hommes et des femmes. Les droits économiques, on comprenait, étaient à la base des droits politiques et des droits civils. C'est pour ça qu'en 1944, Franklin Roosevelt a donné son adresse sur son discours sur les quatre libertés, les four freedoms. Cette histoire, je crois qu'on risque de la perdre maintenant. Les économistes, surtout, ont pris l'habitude de dire que les années 30 furent surtout les années de la révolution keynésienne, l'introduction d'un gouvernement plus grand, plus efficace, et des finances déficitaires et de la gestion macroéconomique. Mais ce n'est pas le cas. J'admire M. John Maynard Keynes. J'étais étudiant à King's College, Cambridge. Je connaissais ses collaborateurs qui étaient toujours là au début des années 70. Mais son livre, son grand livre sur la théorie économique, paru en 1936, c'était 4 ans après l'arrivée au pouvoir de Franklin Roosevelt aux États-Unis. C'était 4 ans après le début du New Deal américain, y compris l'administration des ajustements agricoles, l'administration des œuvres publiques, de l'emploi, de conservation civile, le salaire minimum, les droits des syndicalistes et de la sécurité sociale. À cette époque-là, il y avait une transformation politique et sociale beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qu'en a été retenue dans les mémoires des économistes. Keynes n'était pas encore vu comme Moïse. Et il n'est arrivé au comble de son influence environ 1961, avec l'arrivée au pouvoir dans les États-Unis de l'administration de John F. Kennedy. Et quand cela s'est achevé, c'était un keynésisme, atténué, qui montait de la gestion macroéconomique, le contrôle du chômage, le choix entre le taux de chômage et le taux d'inflation, et non plus de sauver le système capitaliste et la démocratie même d'une crise existentielle. Mais nous vivons tout de même, toujours, même aujourd'hui, avec les grandes institutions sociales qui ont été créées au cours du XXe siècle. C'est seulement que nous avons tendance d'oublier leur importance. Elles sont, ces institutions sont abîmées, certes, sous les coups constants de leurs ennemis perpétuels, qui trouvent une excuse après l'autre pour nous persuader qu'il faut abandonner ces institutions, dont la plus récente et la plus puissante, c'est l'idéologie farouche de l'austérité et de la priorité à la réduction des dettes publiques avant le soutien de la société même. Mais, comme je dis, malgré tout, les institutions sont là, elles existent. Malgré les calculs de M. Piketty, nous ne retournerons jamais aux inégalités absolues et dévastatrice du 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est impossible. La société, la civilisation même disparaîtra bien avant. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que nous sommes sur le point de cette idéologie farouche de l'austérité? Je crois que c'est parce que nous avons vécu la fin de l'époque de croissance. Et nous n'avons pas bien saisi les implications de ce fait. Je crois qu'il y a principalement quatre raisons pour cet changement dans la direction de l'histoire. D'abord, c'est le coût des ressources. Un élément qui a été négligé pendant l'époque de croissance, surtout au début, avant les crises pétrolières des années 70. Le coût des ressources est aussi la financiarisation des marchés des ressources qui permet une force spéculative de dominer les prix de temps en temps. Vous avez vu très bien ce qui s'est arrivé juste avant la crise financière en 2008. En Amérique du Nord, nous avons vu un allègement de ce problème, c'est-à-dire à travers le gaz naturel, mais pour combien de temps? On ne sait pas. Ici, dans le Québec, vous avez des ressources. Vous avez encore des avantages, mais pourvu que vous ne les laissez pas disparaître par le moyen de privatisation. Ça, c'est l'essentiel. Si les ressources restent dans le domaine public, elles peuvent toujours vous servir. Si elles disparaissent, c'est fini. Deuxième raison, deuxième problème ici, c'est la globalisation et la dissolution de confiance dans la sécurité internationale. On a pensé pendant un petit moment, après la disparition de l'Union soviétique, qu'on pouvait avoir un monde où la sécurité sera garantie par les forces militaires des États-Unis. Mais nous avons essayé en Irak, en Afghanistan, et nous avons vu, et les professionnels militaires le savent très bien, les limites de ce qu'ils peuvent faire. Et tout le monde le sait très bien. Et nous vivons dans une époque beaucoup moins certaine, avec beaucoup moins de confiance dans l'avenir. Maintenant, qu'il y a 15 ans. C'est clair. C'est pour ça que nous devons commencer à penser comment vivre dans une certaine localisation, au moins continentale, si cela redevient nécessaire. Troisième problème, c'est la technologie. C'est une question dont les économistes sont toujours dans les débats, mais tout le monde sait très bien que les nouvelles technologies sont différentes de celles qui ont dominé les transitions industrielles du XXe siècle. La transition de transport, par exemple, qu'a vécu mon père, qui est né en 1908 dans une ferme en Ontario, c'était une transformation qui a créé, pour finir, beaucoup d'emplois. La transformation technologique digitale, celle-ci, elle est différente. Elle n'est pas du tout claire d'où viendront les emplois de la prochaine, pour la prochaine génération, si on ne les crée pas nous-mêmes. Et si on ne crée pas les institutions qui peuvent nous servir pour donner le travail à ceux qui en ont besoin. Les institutions publiques et les institutions dans le secteur philanthropique, non-profit, qui peuvent nous aider à réaliser les avantages de la nouvelle technologie. Quatrième question, quatrième problème, c'est la dissolution, en effet, de notre système financier. Par la suite, surtout aux États-Unis, des fraudes massives qu'on a tolérées, même encouragées, surtout dans les marchés hypothécaires. Ce sont, après tout, ces institutions financières qui ont ménagé la croissance dans des vagues qui sont venues ou sont parties après environ l'année 80. La vague des investissements dans l'informatique, la vague des investissements dans les hypothèques et la construction résidentielle. Ces institutions financières ont perdu, de façon, je crois, définitive, leur droit d'être en tête de notre système économique et politique. Elles ne sont plus légitimes. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin, l'impératif même, d'une politique indépendante des banquiers et de la finance. Donc, la situation actuelle, je crois que ce n'est pas facile de relancer la croissance, ni dans le domaine d'une province, ni dans le domaine d'un pays, du continent tout entier. Et c'est malgré les prévisions répétées des économistes qui visent toujours et que la croissance recommence et que le plein emploi soit obtenu d'ici 5 ans. N'importe quelle date, 5 ans plus tard. C'est un peu la religion, ça. Deuxièmement, une perte de crédibilité des Keynésiens qui affirme l'impossible et projette les illusions, protège les illusions d'une sortie facile de la crise. Mais quand même, et troisièmement, nous avons toujours une certaine stabilité à cause des grandes institutions du XXe siècle qui sont toujours là. Surtout les assurances sociales et le secteur public. Malgré tout, malgré ceux qui ont souffert, ils sont toujours là. Donc, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut toujours, surtout, retrouver l'esprit de cette époque qu'on a presque oubliée, l'époque d'avant l'époque de croissance, et il faut retourner à l'organisation au combat, à la solidarité, et à la solution pragmatique de chaque problème social, économique, des investissements, de la construction, des moyens de bien vivre, chaque problème qui se pose. Il faut bien sûr rejeter l'idéologie de l'austérité qui sert à rien, sauf à la destruction de ce qui nous reste, des institutions fondamentales. Il faut valider encore une fois la voix de tous qui vivent de leur travail, qui participent à la société et qui dépendent de la collectivité. Car c'est nous, après tout. C'est nous. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup de votre attention.